passer non pas de la théorie à la pratique, mais de voir qu'effectivement, on peut avoir de gros développements sur la sainteté. Et c'est important d'avoir bien situé les enjeux de ce qu'est cette sainteté, de bien avoir aussi pointé les dérives qui peuvent, avec de très bonnes intentions, hélas, parfois rejoindre certaines personnes. Et donc là, on va plus rentrer dans une dimension plus pratique de la mise en œuvre de cette sainteté. Alors pour le faire, eh bien on est servi par l'évangile d'aujourd'hui, qu'on a commenté tout à l'heure à la messe, avec cet appel de Lévi dans l'évangile de Matthieu. Assis au bureau des impôts, il dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Il s'agit concrètement de suivre le Christ, non pas de le suivre de loin, mais vraiment de le laisser grandir en nous. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement d'imiter Jésus comme un modèle moral. Il y a eu au Moyen-Âge un certain nombre d'écoles comme ça où on parlait de l'exemple du Christ. Le Christ serait un bon exemple pour nous. Alors, de fait, il est un excellent exemple pour nous. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas comme un exemple moral qui serait une référence pour bien agir, mais il s'agit, pour reprendre une expression de la messe, de vivre par lui, avec lui et en lui, et avec cette parole de saint Paul dans la lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Vous voyez, il y a une idée d'appartenance, de demeurer avec le Christ, qui va bien plus loin qu'une simple imitation, même si après, l'imitation peut faire partie de cette suite du Christ. Et le pape le dit clairement, au paragraphe 21, « C'est pourquoi la mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de l'Esprit-Saint, nous modelons toute notre vie sur la sienne. » Avec, on vient de l'entendre, l'importance de l'Esprit-Saint, nous sommes une fois nous avons une foi trinitaire, le Seigneur nous conduit vers son Père dans la force de l'Esprit-Saint, et si on isole le Christ comme un héros, comme un modèle, eh bien on l'ampute de toute une partie de son appartenance trinitaire qui est essentielle, et donc c'est vrai que c'est dans la force de l'Esprit-Saint que nous pouvons effectivement recevoir le Christ en nous. Alors c'est important de situer la question du comment en vraiment concentrant toute notre attention sur le Christ, ça nous évite le pélagianisme, la sainteté n'est pas au bout de nos efforts, et ça nous évite aussi de comprendre le christianisme comme une doctrine ou un programme, c'est la suite d'une personne, le Christ évidemment ressuscité. Alors pour nous faire comprendre cela, le pape va partir dans ce chapitre 3 d'exhortation sur une méditation des béatitudes. Le pape nous dit que ce texte se présente comme la carte d'identité du chrétien. Il y a beaucoup d'expressions pour parler de béatitude. Il y en a qui disent que c'est l'autoportrait du Christ. Saint Augustin dira que tout l'évangile est contenu dans les béatitudes. On est vraiment dans un sommet de la révélation du Nouveau Testament. Et je voudrais, dans une petite introduction, bien situer ce texte. Parce qu'on est dans une section qui est bien précise dans l'évangile selon saint Matthieu. Vous savez, il y a deux versions des béatitudes. Une en saint Matthieu, celle qu'on connaît le plus. Voilà, où il y a 8 béatitudes, plus une dernière qui s'ajoute. Et puis, il y a, dans Saint-Luc, des phases beaucoup plus lapidaires. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux, vous voyez, et en réponse, malheureux les riches, malheureux ceux qui sont rassasiés. Alors que Matthieu les développe d'une façon plus belle, d'une certaine façon, sur le plan littéraire, mais aussi plus travaillé. Donc, ce discours sur la montagne de Jésus en Saint-Matthieu, ce sont les chapitres 5, 6 et 7. C'est une section bien déterminée. On est après les évangiles de l'enfance, on est après le baptême de Jésus, on est après son séjour au désert, et Jésus commence son ministère public, et il va s'adresser à ceux qui sont autour de lui et qui veulent le suivre. Et l'important, c'est qu'ils veulent le suivre, il y a le verbe vouloir, et Jésus va sur la montagne et dans ses trois chapitres, 5, 6, 7 de Matthieu, il enseigne ses disciples, il leur donne des recommandations, il leur donne des conseils, il leur adresse un certain nombre d'avertissements et d'appels, et tout cela au fil de la tradition, on a appelé ça les conseils évangéliques. Voilà, c'est un petit peu, si vous voulez être chrétien, eh bien voilà ce qu'il faut faire. Et ça touche un peu tout, le rapport aux autres, le pardon, les frères, l'argent, la prière, la façon dont nous nous comportons d'une façon très très globale, Alors, dans l'histoire de l'Église, à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce que ce texte s'adresserait uniquement aux consacrés, aux religieux, aux religieuses, ou est-ce qu'il s'adresse à tous les baptisés? Vous voyez bien la conclusion qu'on a pu donner. Hein, il s'adresse à tous, même si les consacrés vont le vivre d'une façon évidemment particulière. Et c'est vrai que des fois, dans les constitutions d'un ordre religieux, on a fidélité au conseil évangélique. Ça renvoie à ces trois chapitres de l'Évangile selon saint Matthieu. Et pour introduire en quelque sorte ce grand discours sur la montagne, eh bien Jésus donne les béatitudes, qui encore une fois est un sommet de l'Évangile. Et alors l'Église a tellement bien compris que le texte qu'on lit le jour de la Toussaint, c'est les béatitudes. Et on pourrait dire, en simplifiant, mais quand même c'est assez juste, hein, qu'est-ce qu'un saint? C'est celui qui a vécu les béatitudes. Avec, et alors ça c'est très important pour bien comprendre les béatitudes, mais ça je vais y revenir, cette conviction et cet approfondissement que celui qui a vécu les béatitudes, c'est le Christ. Et qui est doux, qui est-ce qui pleure, qui est-ce qui est affamé de justice, qui est-ce qui est persécuté, qui est-ce qui est miséricordieux, c'est le Christ. Et après nous, contemplant le Christ vivant les béatitudes, eh bien nous pouvons nous sentir en connivence avec telle ou telle béatitude. On peut se sentir ici et là en désaccord ou en incompréhension avec telle ou telle autre. Et donc dans les commentaires que je vais faire maintenant, eh bien je vais reprendre les huit béatitudes, bien sûr en citant le pape et les commentaires qu'il en fait, mais en l'illustrant par un passage de la vie du Christ, en essayant de l'illustrer aussi par la vie d'un saint, et puis en nous demandant, et évidemment moi avec vous, et moi comment je reçois cette béatitude dans ma vie d'aujourd'hui. Et c'est vrai que cette lecture ainsi faite, cette méditation des béatitudes, nous empêche, et là le pape est vraiment très cohérent, de tomber dans le pélagianisme, hein, de ces efforts qu'on pourrait mener d'une façon trop volontariste. Et ça semble un peu évident quand on lit les béatitudes, parce qu'on ne peut pas dire quel effort je vais faire pour pleurer, vous voyez. Alors si on se pose cette question, petit problème peut-être psychologique ou spirituel qui se pose, hein, mais de fait, il y a une béatitude, heureux ceux qui pleurent. Donc on dit, la question n'est pas de savoir comment je vais faire pour pleurer, mais... Alors oui, les béatitudes, elles sont toujours construites sur le même schéma. Il y a une bénédiction qui ouvre, heureux, ça revient à 8 reprises, heureux, bienheureux. Il y a ensuite la description d'un état de fait, ou d'un état d'esprit, ou d'une situation qui peut être heureuse ou difficile. Des fois ça dépend de nous, des fois ça dépend pas de nous. Des fois c'est plus de l'ordre d'un constat. Et puis la troisième partie de la béatitude, c'est une promesse. Et sur les 8 béatitudes, il y en a 2 qui sont au présent et les 6 sont au futur. Donc il y a la promesse d'une consolation, mais qui parfois est immédiate. La première, heureux et pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Et puis des fois, elle est au futur, heureux, miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Alors il y a toute une question, mais je ne peux pas rentrer dans trop de détails, sur la dimension eschatologique des béatitudes, c'est-à-dire une réalisation qui se vivra dans la fin des temps, à la fin des temps. Peut-être que ce qui frappe dans une lecture un peu rapide des béatitudes, c'est évidemment leur caractère paradoxal, heureux ceux qui pleurent, heureux les persécutés, heureux... ceux qui ont faim et soif de justice. Et puis il y en a d'autres, évidemment, qui nous, j'allais dire, qu'on reçoit d'une façon plus naturelle et qui correspondent davantage à des aspirations qu'on aurait spontanément. Mais d'autres vraiment viennent nous heurter un peu frontalement. Alors voilà, c'est ce chapitre 3e donc, de l'exhortation que le pape intitule « À la lumière du Maître ». Donc c'est très clair, c'est à la lumière du Christ qui vit les béatitudes. Je cite ici le paragraphe 63. Si quelqu'un d'entre nous se pose une question, comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien? La réponse est simple, il faut mettre en œuvre chacun à sa manière ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. Et le pape, bien sûr, comme tout lecteur des béatitudes, est sensible au fait que le maître mot des béatitudes, c'est heureux, bienheureux. Et donc là, il y a comme un secret du bonheur qui nous est donné dans ce texte des béatitudes. Il y a un psaume qui demande qui nous fera voir le bonheur. Et nous comprenons que le bonheur chrétien, est un bonheur qui n'est pas celui du monde, hein, qui peut-être d'une façon qui est légitime, hein, pourrait nous faire dire que être heureux, c'est être en bonne forme, en bonne santé, ne pas avoir de soucis. Sans doute que quand on est comme ça, on goûte quelque chose de ce que peut être le bonheur, mais le bonheur chrétien est plus profond et en tout cas n'est pas l'absence de malheur, quoi. C'est quelque chose qui est d'un autre ordre. Donc le pape le traduit ainsi, les béatitudes donc, indiquent que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa parole atteint dans le don de soi le vrai bonheur. Et c'est vrai que c'est une question qu'on doit se poser, c'est-à-dire, est-ce que je peux dire d'une façon simple et sans orgueil et sans en rajouter que je suis heureux d'être chrétien? Est-ce que quand je pense à la sainteté, j'ai une vision positive que ce chemin qui m'est proposé est un chemin profondément de bonheur et de plénitude? Alors ça, le pape le dit avec force, et en même temps, il ne nous trompe pas sur le chemin. Il nous dit que celui qui vit les béatitudes sera, alors là il dit, immanquablement à contre-courant. Non pas qu'il le cherche à être à contre-courant, vous voyez, il ne faut pas chercher à être martyr, hein, c'est pas, on peut être martyr, mais on n'a pas à essayer par tous ces moyens de devenir martyr, on peut par les circonstances être martyr, mais voilà, être à contre-courant n'est pas une chose à rechercher comme un but en soi, quoi, mais c'est plutôt une conséquence. Et donc ça, le pape dit au paragraphe 65, les béatitudes ne sont nullement quelque chose de léger ou de superficiel, bien au contraire, car nous ne pouvons les vivre que si l'Esprit Saint nous envahit avec toute sa puissance et nous libère de la faiblesse, de l'égoïsme, du confort et de l'orgueil. Bon, c'est pas par hasard si Jésus va les prononcer, ces béatitudes, sur la montagne, qui est le lieu où Dieu se révèle, et qui est le lieu aussi où on rencontre Dieu sur la montagne dans l'Ancien Testament. Voilà, comme une introduction, maintenant je vais reprendre les 8 béatitudes. Donc, effectivement, je vais l'illustrer par certains passages de la vie du Christ, par l'exemple de tel ou tel saint. Et puis, ce que vous aurez à faire tout à l'heure, ça sera de les reprendre, et puis de voir comment vous, dans votre existence, eh bien, elles retentissent. Je dirais qu'il y a deux façons de les recevoir. Il y a, dans l'action de grâce, de constater que telle béatitude, eh bien, je la vis, elle m'est donnée d'une certaine façon, c'est comme un charisme que j'ai reçu. Et voilà comment ce charisme, un talent, si vous voulez, celui qui ne met pas en œuvre son talent, eh bien, il est réprimandé par le Seigneur. Et souvent, on ne le met pas en œuvre parce qu'on a peur. Hein, c'est la peur qui est souvent ce qui nous paralyse le plus et qui fait qu'on ne met pas en œuvre les talents qu'on a reçus. Donc, il y a dans l'action de grâce à se demander, ben voilà, quel est le charisme que j'ai reçu dans ces 8 béatitudes, quelle est celle dont je sens qu'elle me rejoint. Et puis, bien sûr, une lecture qui nous invite aussi à se demander, ben, est-ce que dans les béatitudes, il y en a une que je ne comprends pas, une qui résiste, une pour laquelle vraiment j'ai comme un blocage. Et donc là, c'est source de conversion, et ça peut dévoiler mes manques et mes insuffisances. Vous voyez, quand on reçoit le sacrement du pardon, quand on va se confesser, eh bien, une bonne façon de se confesser, c'est de lire les béatitudes. Et ça produit pas mal de déplacements, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas en train de chercher le petit défaut on va redire tout le temps parce que finalement il passe pas, mais que ça va aller creuser un peu plus profondément dans le cœur de notre existence. Voilà, donc tout à l'heure dans la feuille que je vous donnerai, il y aura le texte des béatitudes, hein, que je vous ai remis, la liturgie, enfin la traduction qui est dans l'exhortation n'est pas forcément la traduction liturgique, donc c'est pas forcément les mêmes mots, mais enfin peu importe, hein. Moi je vous ai mis la traduction liturgique. Mais dans l'exhortation, parfois, c'est d'autres traductions qui sont données, mais ce n'est pas de grosse différence quand même. Donc la première béatitude, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors ça, c'est la façon dont parle le pape dans l'exhortation. La traduction liturgique, c'est heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pauvres de cœur, pauvres en esprit. Hein, on ne va pas non plus rentrer dans les précisions exégétiques. Chez Saint-Luc, c'est simplement « heureux les pauvres ». Ce qui est un petit peu difficile parce que voilà, c'est béatitude paradoxale, parce que évidemment la question se pose, comment considérer que la pauvreté soit quelque chose de bien? C'est pas évident, quoi. Nous savons comment la pauvreté peut être destructrice, combien l'Église se bat contre la pauvreté. Et donc, vous voyez, là, si on s'en tient simplement à celle de Luc, heureux les pauvres, c'est un peu difficile. Matthieu précise, heureux les pauvres de cœur ou les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et donc, on voit bien que... Pardon, oui, c'est Matthieu.
Je peux poser une question?
Oui, pardon. Oui.
Mais en fait, je trouve qu'il y a des noms, ça, je ne comprends pas, pauvre de cœur, pauvre en esprit, oui, mais pauvre de cœur, je ne comprends vraiment pas.
Alors, je vais l'expliquer. Alors, je ne vais pas revenir sur la distinction cœur ou esprit, parce que là, c'est vraiment... Vous voyez, c'est intéressant, la traduction du pape, vous pouvez imaginer qu'elle a été regardée de près. Il met pauvre en esprit, la traduction liturgique, c'est pauvre de cœur. Donc, on va dire que c'est la même chose, mais que c'est différent, en tout cas, de la pauvreté matérielle contre laquelle nous devons lutter. Jésus n'était pas misérable, Jésus n'était pas un pauvre au sens où il aurait été... comme un indigent, quoi. Par contre, Jésus est vraiment le pauvre de cœur par excellence. Alors, le pape essaie justement de répondre à la question, paragraphe 67, l'Évangile nous invite à reconnaître la vérité de notre cœur, on pourrait dire, ou de notre esprit, hein, pour savoir où nous plaçons la sécurité de notre vie. En général, le riche se sent en sécurité avec des richesses, et il croit que lorsqu'elles sont menacées, tout le sens de sa vie sur terre va s'effondrer. Jésus l'explique dans la parabole du riche insensé, en parlant de cet homme confiant qui, comme un insensé, ne pensait pas qu'il pourrait mourir le jour même. Donc en fait, cette béatitude sur la pauvreté du cœur ou la pauvreté de l'esprit, eh bien, profondément, c'est la pauvreté de celui qui ne pense pas pouvoir agir sans Dieu. C'est celui qui laisse Dieu agir et qui a compris finalement, une autre parole logique dans l'Évangile, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est une certaine pauvreté, parce que c'est une dépossession dans la façon dont nous vivons notre vie, dont nous menons notre existence. Est-ce que nous la menons uniquement selon notre désir, selon notre pente naturelle? Alors, des fois, Dieu passe, bien sûr, par nos désirs, par nos attraits naturels, mais le pauvre de cœur, c'est celui qui s'en remet à Dieu. Et ça, dans l'Ancien Testament, c'est une catégorie de personnes qui est bien identifiée. On les appelle les pauvres de Yahvé. Hein, ceux qui, finalement, n'ont plus d'illusion sur leur propre capacité. Non pas par ailleurs, ils peuvent être des gens intelligents, des gens qui ont des capacités, hein, c'est pas ça, mais qui, finalement, se laissent totalement guider par Dieu. On pourrait dire, hein, dans une traduction qui serait évidemment... déjà un commentaire, mais heureux ceux qui se reconnaissent dépendre entièrement de Dieu et qui s'en remettent totalement à lui. Et là, ici, le pape, on n'est pas étonné parce que le pape, vous savez, c'est un jésuite et il cite Saint Ignace de Loyola dans un enseignement qu'il porte, qui est celui de vivre dans l'indifférence. On appelle ça l'indifférence ignatienne. C'est-à-dire que quoi qu'il nous arrive, nous sommes indifférent. Alors, il faut bien comprendre, parce que ça peut être une indifférence qui fait qu'on se moque de sa vie, quoi, puis on vit n'importe comment, mais il ne s'agit pas de cela. Mais là, ici, le pape cite Saint Ignace, que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue qu'une vie courte, et ainsi de suite pour tout le reste. C'est-à-dire vraiment d'accueillir notre vie comme un don de Dieu. Alors, après, bien sûr, il faut la prendre en charge. Il n'y a aucune irresponsabilité dans cette façon de considérer la conduite de sa vie chrétienne, mais l'expression est à la mode, souvent un lâcher prise, mais pas dans n'importe quelle main, mais dans les mains de Dieu. Et dans la vie de Jésus, cette béatitude, me semble-t-il, on la retrouve lorsqu'il dit « Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. » La seule volonté du Christ, c'est de faire la volonté de son Père. Et donc pour nous chrétiens, cette pauvreté du cœur, elle se traduit par une docilité finalement à l'esprit. Alors après, il y a toute la question du discernement, de bien comprendre, hein, tout ça est pas si simple, hein, bien sûr, c'est pas automatique et ça ne se comprend pas forcément dans un temps rapide. Il y a tout un mûrissement. Mais c'est ça le fond de cette béatitude. Alors, bien évidemment, parce que souvent on est un petit peu attendu ici, cette béatitude bien comprise, eh bien, va s'accompagner d'une vigilance par rapport à la richesse matérielle. Alors le pape y insiste beaucoup, et on sait qu'il est très sensible à cette dimension de la vie chrétienne, de la proximité avec les plus pauvres, de la simplicité de vie. Enfin, vous voyez, là, on est un pape qui est attentif à ce témoignage, hein, de vivre notre vie chrétienne simplement. Non pas que être riche matériellement soit en soi un péché, on peut être très riche et être très bon chrétien, mais il y a une vigilance, alors là, qui parcourt toute la Bible, envers la richesse, parce que la richesse peut nous enfermer sur nous-mêmes, et puis, comme le disait le pape au paragraphe 67, avoir des richesses peut faire qu'on va mettre notre cœur dans les richesses que l'on possède. Et avec cette logique qui est souvent, alors très, très fortement dénoncée par le pape, dans notamment Laudato si, d'entrer dans une logique de consommation, qui fait que le but de la vie va être de toujours avoir plus. Donc si on est dans cette logique-là, eh bien, la pauvreté du cœur est impossible. Vous voyez que ce n'est pas simplement une pauvreté du cœur qui serait que spirituelle, et puis après le matériel suivrait ou ne suivrait pas. Hein, le fait, elle est d'abord spirituelle, mais elle a immanquablement des incidences matérielles, une simplicité de vie, une cohérence entre ce que nous vivons à l'intérieur et la façon dont nous vivons extérieurement, et donc qui intègre toutes les dimensions de partage et de solidarité. Alors souvent dans le cortège de tous les saints, pour illustrer heureux les pauvres de cœur, on a choisi saint François d'Assise, hein, évidemment, parce qu'on peut penser que c'est vraiment une béatitude qu'il a comprise vraiment d'une façon assez radicale. Il s'est dépouillé extérieurement, hein, il se déshabille même pour entrer sous le manteau de l'évêque, hein, pour se mettre sous la protection de l'Église, alors même qu'il était d'une famille relativement aisée. C'est l'ami de Dame Pauvreté, mais sa pauvreté, elle ira encore bien plus loin. Vous savez qu'il va, pratiquement tout le temps, même si ce n'est pas terminé comme ça, mais il va refuser de fonder un ordre avec une organisation bien déterminée, alors que le pape même le lui demandait. Il va refuser d'écrire une règle, parce qu'il va dire notre règle, c'est l'Évangile. Et puis, il va suivre la pauvreté du Christ jusqu'au bout, en recevant les stigmates. Donc on a dans la figure de saint François d'Assise vraiment un des saints, hein, qui a suivi d'une façon très, très précise et très radicale la première béatitude, dont beaucoup disent qu'elle est finalement celle qui est la clé de toutes les autres. C'est celle qui contient toutes les autres. Une fois qu'on a compris celle-là, les autres peut-être peuvent mieux se comprendre, mais voilà, on n'aura jamais fini de la comprendre. C'est certainement celle qui est mise en premier, et qui est au présent, hein, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à vous. C'est intéressant, le royaume des cieux constituerait évidemment le nom des cieux, est présent déjà au milieu de nous. Je vais aller vite, hein, parce que des commentaires de béatitude, on peut en faire beaucoup, beaucoup. J'attaque la deuxième, heureux les doux, ils posséderont la terre. Alors cette douceur, il faut bien la comprendre, hein, c'est un mot qui est un petit peu aujourd'hui peut-être déconsidéré, et le pape d'ailleurs le dit que l'actualité de cette béatitude prend toute sa place quand on voit le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde qui est très violent. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de démonstrations pour comprendre qu'on est dans un monde qui est très violent. Et donc le pape, vous voyez, parle un peu de ce constat en disant, paragraphe 71, c'est une expression forte dans ce monde qui depuis le commencement est un lieu d'inimitié, où l'on se dispute partout, de tous côtés il y a de la haine, où constamment nous classons les autres en fonction de leurs idées, de leurs mœurs, voire de leur manière de parler ou de s'habiller. En définitive, c'est le règne de l'orgueil, de la vanité, où chacun croit avoir le droit de s'élever au-dessus des autres. Par rapport à ce constat qui est un petit peu négatif, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, d'une certaine façon de vivre dans le monde, eh bien se dresse comme une espèce de défi et à contre-courant, heureux les doux, car ils posséderont la terre. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que la douceur, c'est un des fruits de l'Esprit Saint. Dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 23, Saint Paul donne un certain nombre de fruits de l'Esprit Saint, et il y a la douceur dedans. Vous voyez qu'il n'est pas donc simplement un trait de caractère, mais qui est un don du Saint-Esprit à recevoir, et qui va entrer frontalement en opposition avec cette violence, ce désir de l'emporter, de régner dans les relations que nous avons les uns envers les autres. Alors évidemment, l'objection qui est souvent faite, et le pape la connaît bien, par rapport à cette douceur, c'est qu'elle n'est pas assimilée à la mollesse ou à la paresse. Alors, ça, le doux n'est pas un mou. Ça, c'est pas le pape qui dit, mais c'est une formule. Et le pape le comprend bien. Alors, je vous lis le paragraphe. Quelqu'un pourrait objecter, si je suis trop doux, on pensera que je suis stupide, que je suis idiot ou faible. C'est peut-être le cas, mais laissons les autres penser cela. Il vaut mieux être toujours doux, et nos plus grands désirs s'accompliront. Les doux posséderont la terre, autrement dit, ils verront accomplies dans leur vie les promesses de Dieu. Donc là, je trouve que ça rejoint bien ce qu'il a dit dans un autre chapitre sur les humiliations, parce que, de fait, entrer dans cette logique de la douceur, eh bien, peut nous amener à un certain nombre de contradictions. Le pape dit, voilà, c'est peut-être le cas, mais laissons les autres penser cela. Et n'entrons pas dans la logique de la violence, dont on voit qu'elle est un enchaînement sans fin. La violence appelle la violence. Et donc, la rupture de la violence peut notamment se situer dans cette douceur à laquelle le Seigneur nous invite. Alors, on peut dire que Jésus a été un homme doux, et il y a une passage de l'Évangile qui le dit très clairement, où Jésus d'ailleurs le dit lui-même, c'est Matthieu 11, 28-29. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, cette douceur du Christ, elle n'est pas une mollesse ou une paresse, parce que Jésus, bien sûr, par toute sa vie, va montrer son énergie, sa force, l'autorité de sa parole. Donc, vous voyez, on est en face d'un homme qui a une grande, grande autorité et qui, en même temps, dit « Je suis doux et humble de cœur, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » Et cette douceur de Jésus, il va aussi la manifester dans sa passion, lorsqu'il va rentrer à Jérusalem sur un âne, acclamé par une foule qui, quelques temps après, le condamnera. Et quand il refusera que Saint-Pierre prenne un glaive pour le défendre, il y a une douceur du Seigneur qui se révèle jusque dans sa passion, où pourtant la violence du péché et du monde se déchaîne contre lui. Dans la figure des saints, il y a une figure qui se détache un petit peu sur la douceur, c'est Saint François de Sales. On parle, vous voyez qui c'est un évêque donc, qui a écrit l'introduction des vies dévotes, qui a été un grand maître spirituel, et on parle de la douceur salésienne, donc certainement dans la façon de gouverner son diocèse, mais aussi dans la douceur avec laquelle il accompagnait les personnes qui lui demandaient des conseils. Si vous lisez l'introduction à la vie dévote, vous verrez c'est un docteur de l'Église, donc il y a une parole qui peut assurer et auquel on peut se fier. Il y a une grande douceur dans la façon dont il mène les personnes à avancer selon leur propre chemin vers la sainteté. Ce qui me permet d'ajouter un petit élément, dans la douceur, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on soit aussi doux envers nous-mêmes. C'est pas toujours le cas, il faut être très dur envers soi, et ça a des conséquences négatives sur les autres. Des fois on dit oui, mais il est très dur avec lui-même. C'est pour justifier qu'il est dur avec les autres. Donc, ça veut dire que c'est cohérent, mais voilà, il faut pas se laisser aller, il faut bien sûr être courageux, toute une série de choses qui sont très importantes, bien sûr, mais voilà, être trop dur envers soi-même n'est pas chrétien, parce que On peut même être impitoyable contre soi-même, et du coup, on se décourage et on n'avance pas. Voilà, mais chacun, je vais vite parce que sinon ça prendra trop de temps, mais chacun pourra après reprendre chacune des béatitudes et voir comment il peut l'appliquer à lui-même. Troisième béatitude, alors là dans la traduction de l'exhortation, c'est « Heureux les affligés car ils seront consolés » et dans la traduction liturgique, c'est « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Alors, c'est assez clair que c'est sans doute la béatitude la plus compliquée, la plus paradoxale. Comment comprendre voilà, cette invitation « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés » sans tomber dans des raisonnements qui seraient plus tellement chrétiens. Vous voyez, par exemple, une vision de la souffrance qui ferait que finalement la souffrance, à nos yeux, n'aurait aucune importance. Tout ça ne serait pas très grave, on finirait par nier la souffrance, voilà, c'est pas très grave de souffrir, donc c'est pas possible de dire ça, ou que la vie serait un mauvais moment à passer, et puis ça ira mieux quand ce sera fini. Ou alors une vision doloriste de la foi, c'est-à-dire plus on souffre, plus on est chrétien, et plus on est heureux. Alors, c'est des fois des pensées qui ont pu être reprochées au christianisme en disant finalement que tout ça encourageait les gens à ne pas trop bouger, à rester dans leur situation. Vous pleurez aujourd'hui, mais demain ça ira. Enfin, demain, non. Donc, restez dans votre situation. Et il y a notamment le marxisme a dit voilà, la religion est l'opium du peuple. Voilà, donc, vous êtes dans une situation qui est mauvaise, et bien vous pleurez. C'est triste, mais voilà, demain, il ira mieux, mais demain, ce sera dans l'éternité. Quoi. Donc oui, il ne s'agit pas de ces larmes-là. Le pape Benoît XVI avait écrit un livre sur Jésus, là, quand il était pape, il avait commenté dans ses textes les béatitudes, et il disait, le grand problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi les gens pleurent dans le texte. Hein. Parce qu'on peut pleurer pour différentes choses. On peut pleurer parce qu'on souffre physiquement, par exemple, parce qu'on a une maladie. Hein, c'est pas tout à fait pareil que de pleurer aussi parce qu'on a une tristesse d'un deuil ou qu'on a, on est déçu de la situation du monde et donc on pleure ou qu'on est par compassion à pleurer avec ceux qui pleurent. Et il y a différentes facettes de la tristesse. Hein, et là, le pape Benoît XVI comparait, si vous voulez, les larmes de Judas après avoir trahi Jésus, et les larmes de Saint-Pierre, après avoir renié à trois reprises Jésus. Et donc les deux, ils pleurent, mais il y en a un qui va se désespérer et se suicider, et puis il y a l'autre qui va se tourner vers Dieu, vers Jésus, et recevoir son pardon. Vous voyez, les larmes en elles-mêmes, elles peuvent avoir des significations différentes. Hein. Mais voilà, la béatitude ne précise pas, et elle nous dit « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Alors, je pense que la façon chrétienne de recevoir les béatitudes, c'est de comprendre ces larmes comme des larmes de compassion. Et ceux qui pleurent parce que finalement, ils prennent la mesure de la souffrance, alors peut-être qu'ils portent même, mais aussi de la souffrance des autres, de la souffrance du monde, et ils sont... Donc c'est insatisfaction que les choses soient difficiles, qu'il y ait de la souffrance, et donc ils pleurent, et ils sont sensibles aux maux de notre temps et aux maux de ceux qu'ils rencontrent. Et donc Jésus les reconnaît heureux parce qu'ils ne sont pas indifférents à tout cela. Et il y a aussi dans cette béatitude, et là c'est le pape François pour le coup, le point, cette prise de conscience que effectivement le mal, la souffrance existe et que on ne peut pas en faire l'économie. Et il y a dans cette béatitude, il y a une espèce d'école de réalisme. Vous lisez le paragraphe 75 de l'exhortation. Il parle l'homme mondain, l'homme d'aujourd'hui ignore, détourne le regard quand il y a des problèmes de maladie ou de souffrance dans sa famille ou autour de lui. Le monde ne veut pas pleurer. Il préfère ignorer les situations douloureuses, les dissimuler ou les cacher. Il s'ingénie à fuir les situations où il y a de la souffrance, croyant qu'il est possible de masquer la réalité où la croix ne peut jamais, jamais manquer. Donc en fait, cette béatitude nous invite à une espèce de regard lucide sur le monde d'aujourd'hui, où il y a de la souffrance, où il y a des misères, où il y a des malheurs, et le fait de pleurer, eh bien, est le signe que nous l'avons intégré, compris, et que nous, après que nous sommes prêts, parce que, mais sur les béatitudes, il faut les lire avec tout le reste de l'Évangile, hein, et que nous sommes prêts à y agir, mais c'est parce qu'on aura été touché que notre action sera d'autant plus vraie et forte. On a peut-être tous fait cette expérience, en tout cas moi ça m'est arrivé, hein, en fonction d'une prise de conscience d'une situation de souffrance, et bien de se réveiller, de recevoir une espèce de vraiment de claque, de, littéralement, et puis de se mettre en route, quoi. Mais celui qui ne pleure pas, celui qui ne veut pas voir, celui ben, ne se mettra pas en route par rapport à ce qui est, hélas, de l'ordre simplement d'un constat. Et ça, le pape le dit vraiment fortement. La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse transpercer par la douleur et pleure dans son cœur. Elle est capable de toucher les profondeurs de la vie et d'être authentiquement heureuse. Je cite souvent, quand je fais des exposés là sur la famille Martin, l'exemple de Zélie, hein, qui à un moment donné écrit une lettre à une personne qui a perdu un enfant. Et on voit que la lettre qu'elle écrit à cette personne est très très juste et pleine de compassion, mais comme par hasard, elle-même déjà a perdu deux enfants. Et donc, heureux ceux qui pleurent, c'est pas du tout du masochisme évidemment, mais c'est cette prise de conscience d'une donnée contre laquelle voilà, nous ne devons pas fermer les yeux, c'est celle de la souffrance. Et si nous ouvrons notre cœur réellement, eh bien, nous serons de ceux qui seront consolés, mais aussi qui seront des consolateurs. Alors, les occasions dans la vie de Jésus de pleurer, est-ce que vous... La mort de Lazare.
Et de Daniel Sphérique, avant la croix. Quand il se lamente sur Jérusalem.
Quand il pleure sur Jérusalem. Et puis, dans sa passion. Hein.
Ah ben oui.
Oui, oui. Donc oui, Jésus pleure à plusieurs reprises, hein, son ami Lazare, sur Jérusalem, à la passion. Ce sont des larmes de compassion, hein, où il éprouve lui-même le mal, la souffrance, et notamment lorsque Jérusalem ne l'accueille pas, il pleure sur cette ville qui ne l'a pas accueillie. Et c'est une belle illustration de cette béatitude, de contempler Jésus pleurant et de comprendre pourquoi il pleure et de voir quelle attitude cela ensuite a dans sa vie. Dans la vie des saints et des saintes, il y a une sainte qui est célèbre pour ses larmes. C'est Sainte Monique qui pleure.
Le pape a eu une belle attention le jour de sa fête.
C'est possible, oui.
Il a dit aux mères de famille qu'elles devaient prier inlassablement pour leurs enfants, comme Sainte Monique, et elles seront récompensées des larmes qu'elles versent pour leurs enfants.
Voilà. Alors, j'avais un petit texte que Saint Augustin écrit dans les Confessions. Voilà, je lis simplement un petit passage. Donc, Sainte Monique, par la bouche de Saint Augustin, écrit « Il n'y avait qu'une seule chose pour laquelle je désirais rester un peu dans cette vie, c'était de te voir chrétien catholique avant de mourir. Mon Dieu m'a accordé cela au-delà de mes vœux. » Je te vois son serviteur, non content d'avoir un privé. Voilà. Bref, Sainte Monique pleurant pour obtenir la conversion de son fils. Ce qui fait que cette béatitude peut aussi s'appliquer à notre vie de prière. Hein, ça rejoint ce qu'il disait ce matin dans l'exposé sur la persévérance, la patience vers laquelle nous devons tendre. Quatrième béatitude. Heureux les affamés, les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. La traduction liturgique est heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors, cette béatitude, il faut bien la comprendre, parce que souvent on la comprend d'une façon, j'allais dire, trop humaine. Hein, pour nous, la justice, c'est, voilà, c'est de vivre dans un état qui est juste, par exemple, mais ça c'est évidemment très important. Ça ne supprime pas cette dimension hein, de la justice humaine, mais cette justice humaine, elle est plutôt dans la huitième béatitude, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Là, dans la quatrième béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, il faut davantage comprendre la justice sous le mode de la justice divine. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que celui qui est juste envers Dieu, c'est celui qui donne la première place à Dieu. Alors oui, ça ne disqualifie pas le fait qu'il y ait une justice humaine, que nous devons vivre dans la justice et essayer le plus possible de faire régner la justice humaine. Mais dans cette quatrième béatitude, il y a l'idée d'être juste à l'égard de ce que Dieu attend de nous. Et être juste à l'égard de ce que Dieu attend de nous, c'est de lui donner la première place. Donc le pape, évidemment, c'est bien ces deux dimensions de la béatitude. Je vous lis le paragraphe 79. Une telle justice commence à devenir réalité dans la vie de chacun lorsqu'on est juste dans ses propres décisions. Et elle se manifeste ensuite quand on recherche la justice pour les pauvres et les faibles. Donc là, il est sur le versant une justice humaine. Et après, il continue. Il est vrai que le mot justice peut aussi être synonyme de la fidélité à la volonté de Dieu par toute notre vie. Mais si nous voulons lui donner un sens très général, nous oublions qu'elle se révèle en particulier dans la justice envers les désemparés. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je voudrais qu'on arrive à les lire toutes les huit. C'est vrai que Jésus a été un homme de justice, donc là ça rejoint un petit peu la première béatitude sur le fait qu'il veuille faire la volonté de son Père. Et la justice du Seigneur, ça a été de donner toujours à son Père la première place. Dans la vie des saints, voilà, j'avais un texte qui était un petit peu compliqué sur Edith Stein, mais voilà, peut-être que vous le donnerez un jour, mais là, ça nous entendrait peut-être dans d'autres développements. Heureux, cinquième béatitude, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Alors, ces dernières années, on a été vraiment aidés par l'année de la miséricorde que le pape nous a donnée. Une année jubilaire dans laquelle je trouve on a peut-être redécouvert les œuvres de miséricorde, à la fois matérielles et spirituelles. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde ? Spontanément, on pense que c'est notamment la notion du pardon. Et c'est vrai qu'être miséricordieux, c'est de pardonner. Mais la miséricorde, c'est celui, donc dans miséricorde, il y a le mot cœur qui est derrière, c'est celui dont le cœur est touché par la misère des autres. Donc ça rejoint un petit peu aussi heureux ceux qui pleurent. Enfin, toutes les béatitudes évidemment se tiennent et se renvoient l'un à l'autre. C'est celui qui est ouvert à la misère des autres et qui va agir en leur faveur. C'est ça l'homme miséricordieux. Et qui intègre évidemment la notion de pardon parce que si vous voulez, celui qui est un pécheur, celui qui a péché, eh bien, il a commis quelque chose qui a blessé le cœur de Dieu, et donc son péché est aussi une misère. Vous voyez, c'est de comprendre que le péché est une misère, et donc la miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui se penche sur notre misère, et notre première misère, c'est d'être pécheur. Et donc, sa miséricorde, en ce sens, est infinie. Je lis ici les passages du pape, hein, les paragraphes 80 et 82. La miséricorde a deux aspects. Elle consiste à donner, à aider, à servir les autres. Donc c'est là. Et puis aussi à pardonner et à comprendre. Et le pape va beaucoup insister sur le fait que celui qui comprend cette cinquième béatitude, c'est celui qui a compris que lui-même, il lui avait été fait miséricorde. C'est parce que je suis, mais pas simplement intellectuellement, mais convaincu que je suis un pécheur pardonné, que je vais pouvoir être miséricordieux. Donc là, il y a la belle expression du pape. Il faut savoir que tous, nous constituons une armée de gens pardonnés. Tous, nous avons bénéficié de la compassion divine. Si nous nous approchons sincèrement du Seigneur et si nous tendons l'oreille, nous entendrons parfois probablement ce reproche. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi, j'ai eu pitié de toi. Alors ça, c'est effectivement une expression que saint Paul pourra lui-même tenir en disant, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Hein, c'est vrai que celui qui, des fois, est tombé et qui a bénéficié de la miséricorde de Dieu, eh bien, il va être plus miséricordieux. Alors, il ne faut pas en traduire comme conséquence qu'il faut faire de gros péchés pour comprendre la miséricorde de Dieu, parce que le péché nous fait souffrir et fait souffrir les autres. Donc, le péché ne peut jamais être un chemin, mais des fois, nous tombons dans ce péché. Et c'est vrai que la miséricorde que le Seigneur nous a accordée, si elle est bien reçue, sera source pour nous d'être des hommes et des femmes de miséricorde. D'où l'importance du sacrement du pardon. Alors Jésus, homme de miséricorde, c'est évident. On pourrait prendre par exemple dans l'évangile de Saint-Luc la venue de Jésus chez Zachée, hein, à qui il va faire miséricorde. D'ailleurs, il dit qu'il fallait que ce fils d'Abraham reçoive aujourd'hui la miséricorde. C'est pour ça qu'il va chez lui, alors même que Zachée est un voleur. Et puis dans sa passion, eh bien, Jésus qui va pardonner, hein, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans la vie des saints, bon, évidemment, je pense à saint Jean-Marie Vianney, hein, qui est ce prêtre admirable, curé d'Ars, qui a été un apôtre du sacrement du pardon pendant toute sa vie, mais qui lui-même, quand on lit la vie du curé d'Ars, avait expérimenté son extrême pauvreté. Oui, il se sentait totalement incapable d'être prêtre, indigne d'être prêtre, et donc oui, il avait compris que le Seigneur lui avait fait miséricorde, et il raconte lui-même qu'au début il était assez sévère dans la façon dont il accueillait les pénitents, et qu'après il a été plus miséricordieux, non pas au sens où il n'est pas devenu laxiste, oui, c'est pas ça la question, mais sans doute d'une compréhension bien plus grande des difficultés des personnes, et surtout de cet immense désir de Dieu de manifester sa miséricorde aux pécheurs. Donc, pour nous, voilà quelle est la place de la miséricorde dans notre relation à Dieu et dans notre relation aux autres. Je continue. La sixième miséricorde, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Alors, la question de pureté est assez délicate, parce que des fois, on a une vision qui est assez marquée par la sexualité du pur et de l'impur. Et puis, dans l'Ancien Testament aussi, il y a des lieux où on ne va pas parce qu'on va être impur. Vous voyez, toutes ces questions-là, elles sont évidemment, elles nous marquent, même si on les a un petit peu dépassées. Mais, en fait, le contraire de la pureté, ce n'est pas l'impureté au sens où on pourrait le comprendre, mais c'est l'hypocrisie. Il y a un cœur pur, c'est un cœur droit, c'est un cœur qui est sans malice, c'est un cœur qui avance dans la vérité. Et on sait combien Jésus s'opposera, notamment aux pharisiens, et souvent il les dénoncera comme des hypocrites. Donc oui, je pense que cette pureté du cœur, elle est à comprendre dans la droiture, l'honnêteté au sens large du terme, et dans la façon dont finalement nous nous comportons. Alors, je vais lire ici ce que dit le pape, hein, sur cette septième béatitude. Donc là, il est très concret. Pardon, vas-y, oui. Par exemple, quand j'entends quelque chose de quelqu'un, que je vais voir une autre personne et que je lui répète, et que j'en fais moi-même une deuxième version, un peu plus étoffée, et que je la propage, et si je réussis à faire plus de mal, il semble que cela me donne davantage de satisfaction. Le monde des ragots fait des gens qui s'emploient à critiquer et à détruire, ne construit pas la paix. Ces gens-là sont au contraire des ennemis de la paix et aucunement des bienheureux. Pardon, je suis dans... Pardon. C'est pour ça que j'ai bien la 7e, mais là, je suis dans les artisans de paix. Je reviens au cœur pur, pardon, j'ai sauté. Pas grave. Mais ceci dit, ça pourrait convenir aussi. Alors, les cœurs purs, dans la Bible, le cœur pur, ce sont ceux... Enfin, le cœur est le lieu de nos intentions véritables, ce que nous cherchons vraiment, ce que nous désirons, au-delà de ce que nous laissons. Plus que toute chose, dit le pape, il faut veiller sur le cœur, qu'il ne soit pas souillé par le mensonge, car notre cœur a une réelle valeur pour le Seigneur. Quand le cœur aime Dieu et le prochain, quand telle est son intention véritable, et non pas de vaines paroles, alors ce cœur est pur et il peut voir Dieu. Il y a une pureté de la relation, une pureté du regard, qui fait que cette pureté du cœur est associée au fait de voir Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Alors Jésus sera un homme au cœur pur, hein, bien évidemment. Dans l'Ancien Testament, c'était une demande, hein, dans le psaume « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit », on le chante tous les vendredis. Jésus va beaucoup combattre l'hypocrisie qui est le péché. Et le mensonge, oui, pour Jésus, le mensonge est un péché très grave qui détruit le cœur et qui détruit la relation. On pourrait ici voilà, commenter l'évangile de la femme adultère dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Mais les pharisiens qui n'ont pas le cœur pur veulent mettre Jésus à l'épreuve et veulent qu'il condamne cette femme. Hein. Donc on sait que Jésus ne va pas être dans la condamnation de la femme, même si dans la condamnation de l'adultère, mais il va l'inviter à se convertir. Et puis la pureté du cœur du Seigneur, on peut aussi la voir dans sa passion. Quand il parle au bon larron sur la croix, avec moi aujourd'hui tu seras dans le paradis. Donc c'est un regard posé sur un homme qui sans doute n'est pas par hasard crucifié, hein, qui a science. Enfin, d'ailleurs, l'autre, nous avons fait le mal, hein, celui qui est avec lui. Mais Jésus ne l'enferme pas dans son péché parce qu'il voit avec un cœur pur. La sainteté du cœur dans. La pureté du cœur, pardon, dans la vie des saints. On pourrait citer beaucoup d'exemples. J'aime bien citer ici saint Jean Bosco qui s'occupait des jeunes en difficulté dans les banlieues difficiles de l'Italie au XIXe siècle et qui, au-delà des jeunes qui étaient souvent très durs et qui avaient souvent de grosses souffrances et du gros fardeau qu'ils portaient, eh bien, portait sur eux un regard d'espérance et fait qu'il les relevait, quoi, enfin. Il n'a pas toujours d'ailleurs réussi, il y a certains jeunes des fois qu'il a été obligé de renvoyer, hein. C'est intéressant quand on lit la vie de saint Jean Bosco, il y a des fois confronté à des difficultés qu'il n'arrive pas à résoudre, mais il y a un regard pur porté sur ces jeunes dans la mesure où il essaye de ne pas les enfermer dans toutes les limites, les violences notamment qu'il portait en eux et que ce regard de cet homme prêtre les a relevés. Alors je passe maintenant à la 7e, effectivement, heureux les artisans de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Je vais vous lire là le. Ben alors, donc c'est le texte que j'ai dit tout à l'heure, hein, sur le pape parlant de ces personnes qui font des ragots. Hein. Mais il va plus loin dans le paragraphe 89, parce qu'il dit cette interpellation de la béatitude, elle est une interpellation communautaire. C'est-à-dire, comment nous, communauté chrétienne, nous essayons d'être des artisans de paix. Et il nous en montre la difficulté. Je lis là le paragraphe. Il n'est pas facile de bâtir cette paix évangélique qui n'exclut personne et qui inclut également ceux qui sont un peu étranges, les personnes difficiles et compliquées, ceux qui réclament de l'attention, ceux qui sont différents, ceux qui sont malmenés par la vie, ceux qui ont d'autres intérêts. C'est dur et cela requiert une grande ouverture d'esprit et de cœur. Parce qu'il ne s'agit pas d'un consensus de bureau ou d'une paix éphémère pour une minorité heureuse, ni d'un projet de quelques-uns destiné à quelques-uns. Il ne s'agit pas non plus d'ignorer ou de dissimuler les conflits, mais d'accepter le conflit, de le résoudre et de le transformer en un maillon d'un nouveau processus. Vous voyez, c'est une perspective, vivement la paix, on prie pour la paix. Il y a le 1er janvier dans l'Église, c'est la journée mondiale de prière pour la paix, on l'a vécu il y a quelques jours. Et cette paix, elle est difficile parce qu'elle ne peut pas être simplement un consensus ou un minimum commun, mais il y a une œuvre à construire, heureux les artisans de paix, et la récompense, ils seront appelés fils de Dieu. Voilà, Jésus a été un artisan de paix, je pourrais encore citer d'autres passages de l'Évangile, mais il faut que je conclue maintenant. Dans les saints, il me semble que saint Jean-Paul II a été, par différentes façons de son pontificat, un artisan de paix. Bon, on pense évidemment à ce qui se passait dans les pays de l'Est, il a été élu pape, et puis aussi dans son souci du dialogue interreligieux, oui, la réunion d'Assises en 86, il a voulu poser un geste qui n'a pas forcément toujours été bien compris, mais d'être un artisan de paix. Ils sont appelés fils de Dieu avec les autres religions, non pas de tout mettre sous le même plan, non pas de tout confondre, mais d'essayer en fait de faire comprendre que la religion ne doit pas être source de guerre ou de conflit, même si c'est hélas parfois comme cela qu'elle est comprise. Voilà, en fait, la dernière maintenant béatitude, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Donc là, on est davantage que par rapport à la quatrième dans la justice humaine, hein, et donc vraiment la justice qu'on doit instaurer dès aujourd'hui sur la terre. C'est une œuvre qui sera un peu comme celle de la paix, c'est-à-dire toujours en attente, en devenir. On n'aura jamais ici-bas, hélas, une justice parfaite et une paix parfaite, mais on a à ne jamais se décourager et on a toujours à lutter, et là il s'agit d'être persécuté pour la justice, hein, pour que on ne baisse jamais les bras par rapport à toutes ces situations d'injustice. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la dernière béatitude qui est aussi au présent. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Là, je vous lis aussi le passage du pape, c'est les paragraphes 90 et 94 que je cite. Jésus rappelle combien de personnes sont persécutées et ont été persécutées simplement pour avoir lutté pour la justice, pour avoir vécu leurs engagements envers Dieu et envers les autres. Si nous ne voulons pas sombrer dans une obscure médiocrité, ne recherchons pas une vie confortable, car qui veut sauver sa vie la perdra. Le pape un peu plus loin écrit: les persécutions ne sont pas une réalité du passé, parce qu'aujourd'hui encore, nous en subissons, que ce soit d'une manière sanglante, comme les martyrs contemporains, ou plus subtils, à travers les calomnies et les mensonges. Alors c'est vrai que dans la vie de Jésus, eh bien, il a été persécuté, hein, parce qu'il voulait cette justice, et qu'il a été ultimement condamné à mort par les Romains, par les Juifs et par toute cette foule qui l'entourait. Alors, voilà, dans la vie du Christ, c'est vrai qu'il y a une persécution qui va le suivre un petit peu tout le temps dans son ministère public, c'est celle des pharisiens, hein, qui vont toujours essayer de le prendre en défaut par rapport à la rectitude de son enseignement. Et puis, dans sa passion, bien sûr, il est persécuté, hein, par tous les acteurs de la passion, hein, compris même ses propres apôtres, hein, qui l'abandonnent et qui, par cet abandon, le persécutent. Dans la vie d'un saint, il me semble que la vie de saint Maximilien Kolb est très, très belle en ce sens. Vous voyez, ce franciscain donc, qui va mourir dans un camp de concentration, mais qui va laisser sa place à un homme ils avaient choisi 10 personnes qui devaient aller dans le bunker de la faim. Et puis, il y a, dans les 10 qui avaient été choisis, il y en a un qui est père de famille. Et qui, dès qu'il est choisi, dit mais ma femme et mes enfants. Et donc, Maximilien Kolb se propose de le remplacer. Donc, va prendre la place de cet homme. Eh bien, voilà, il y a une persécution pour la justice au sens large du terme. C'est aussi un martyr de la charité, Maximilien Kolb. Vous voyez qu'il va donner sa vie par amour de cet homme qui avait des enfants. Et ce qui sera très très beau, c'est que cet homme sera présent à la canonisation de Maximilien Kolb. Voilà, je m'arrête là parce que le temps a tourné. Cette petite feuille bleue que je vais vous donner maintenant, il y a le texte des Béatitudes, vous pourrez le reprendre tranquillement.